La décadence intellectuelle du monde musulman, qui n'en finit pas de perdurer, n'a cessé de créer depuis quelques décennies, pour ne pas dire quelques siècles, un état de léthargie intellectuelle, une sclérose de la pensée et une cécité de la vision islamique globale qui fait toujours cruellement défaut. Comment sortir de cette impasse? Le Coran peut-il nous y aider et comment? Faut-il précisément concevoir le Coran comme un réservoir de concepts, de notions clés et d'idées intemporelles qui s'offriraient à ceux qui auraient l'intelligence, le courage et l'audace de s'en saisir? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hamdi Ben Aïssa. Bienvenue sur Mizen TV.
Marhaba, bienvenue.
Merci à vous. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant, fondateur de l'Institut Hamim et du mouvement Floraison. Vous êtes engagé dans une dynamique d'inclusivité religieuse. Je ne sais pas si vous accepterez ce terme.
Bienvenue.
Et vous êtes l'auteur d'un livre à paraître intitulé L'agir spirituel.
Inch'Allah.
Avec nous également dans cette émission, Ousmane Timéra. Bienvenue sur Mizen TV.
Comment fait?
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes
Merci
un
à vous.
acteur engagé depuis, je dirais, au moins une vingtaine d'années dans le champ islamique français.
Ah, 20 ans?
Je ne sais pas.
Ça fait beaucoup, dis donc. Je suis pas si vieux que
Bon,
ça.
au moins 15 ans, je dirais.
Ça fait 10 ans en tout cas que j'interviens, à peu près 8 ans, 10 ans que j'interviens
Bon,
dans mes
très bien. Alors, une
conférences.
dizaine d'années, on va dire. Vous êtes conférencier, vous préparez un doctorat en philosophie sur la notion de volonté chez Al-Razali.
Oui.
Vous êtes par ailleurs le cofondateur du collectif Un Islam des musulmans.
Oui.
Et enfin, vous êtes l'auteur du premier tome d'un livre intitulé Lire le Coran avec un Y, lire avec un Y, dans lequel vous proposez une relecture méditative de ce livre en dépassant l'horizon des interprétations traditionnalistes ou modernistes, avec aussi des propositions. Alors, j'évoquais en préambule de cette présentation la décadence intellectuelle du monde musulman. Ma première question est simple, est-ce que vous partagez et confirmez ce constat, Hamdi Ben Aïssa?
C'est un constat qui n'a pas besoin d'être confirmé. Je pense que c'était devenu une évidence. C'est devenu une évidence. On le voit effectivement. Il y a une décadence intellectuelle, je dirais même morale, éthique. Tout ça parce que la décadence intellectuelle, elle va commencer. Toute une série de décadences, elle va provoquer toute une série de décadences. Donc oui, il y a une décadence intellectuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par intellectuel ici? Une décadence de l'intelligence, cette capacité et volonté de lire Dieu, de lire notre époque, de lire le prophète, de lire notre mission, de lire en nous-mêmes. Voilà, cette capacité de lecture intérieure, hein, qui vient de l'intérieur, de l'œil intérieur, effectivement, il y a une décadence intellectuelle et cette décadence-là, on voit ses conséquences aujourd'hui sur tous les plans. Une décadence morale, une décadence éthique, une décadence, je dirais, religieuse, spirituelle, économique, sociale, sur tous les plans. C'est un fait incontestable.
Très bien, donc le tableau est plutôt sombre. Ousmane Timéra, donc je vous pose la même question, est-ce que vous confirmez partagez pardon, et confirmez ce constat? Et au-delà du constat, quelles sont les causes finalement de cette décadence qui apparaît persistante au point où on croirait qu'elle est permanente, même si cela n'a pas été le cas dans le passé? Il faut aussi le souligner.
Oui, alors, en fait, il faut que nous, à partir de quoi nous diagnostiquons la situation. Si nous nous en tenons au Coran et si nous nous en tenons à la situation. Du point de vue coranique, la communauté musulmane a été fondée par le prophète Mohammed sur lui la paix pour porter un message, premièrement, et d'être témoin de l'humanité dans la capacité à incarner des principes. Principe de justice d'abord, et d'incarner un leadership civilisationnel. Cela, effectivement, a eu lieu dans le passé. Très bien. Mais, cependant, quand nous regardons la situation actuelle des musulmans de Dakar à Jakarta,
eh bien, nous constatons une situation de colonisation et de colonisabilité, pour parler comme Malik Bennahbi, dans le sens où ils n'ont pas les moyens de leur indépendance intellectuelle et donc de contribuer dans ce domaine-là au niveau civilisationnel, et ils n'ont plus les moyens de leur souveraineté politique et économique, de sorte qu'ils puissent décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. Si nous regardons globalement la situation du monde musulman, nous sommes dans une situation effectivement où il y a peu de contributions intellectuelles, il y a peu de production économique, et donc il y a peu de place pour eux dans les grandes décisions du monde. Ils subissent bien plus qu'ils ne proposent et n'agissent. Donc de ce fait, oui, nous sommes dans une situation de retard civilisationnel.
Alors, la question mérite d'autant plus d'être soulevée que finalement, on pourrait s'interroger, les nations musulmanes, si on veut les appeler comme cela, cette communauté musulmane dans le monde entier, dispose des mêmes sources, a toujours accès aux sources de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la tradition prophétique. Elle n'a pas été coupée. Alors, elle n'a pas été coupée de ses sources. On pourrait tout à fait penser que certains discours religieux l'auraient coupée de ses sources. Mais disons que, objectivement, en tous les cas, pour les intellectuels, le personnel qui est formé intellectuellement, les sources sont disponibles, les sources existent, elles n'ont pas disparu. Malgré cela, effectivement, donc vous partagez le même constat de décadence sur tous les plans. Mais est-ce que, Ousmane Timer, vous parliez de retard économique, Hamdi Ben Aïssa aussi en avait parlé avant, retard économique, social sur tous les plans, un retard sur tous les plans.
Civilisationnel.
Est-ce qu'il faut imputer cela, est-ce qu'il faut imputer tous les retards à un manque de vision islamique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut islamiser tous les volets de la société humaine, ou est-ce qu'il faut considérer que certains domaines appartiennent prioritairement et essentiellement à la vision islamique, la question, par exemple la question éthique, qui interfère aussi dans la société. Voilà, je ne sais pas si ma question, est-ce qu'il faut attribuer tous les retards finalement à un manque de vision islamique?
En fait, déjà, il faut qu'on définisse ce qu'on entend par islam. Si on entend par islam un système clos, exclusif, qui exclut et qui doit colorer et islamiser pour exister l'existence, j'ai pas la même définition de l'islam. Si on entend par islam une vision du monde qui correspond à la marche même de l'univers, de sorte que le Coran nous donne prioritairement, après l'idée de l'unicité de Dieu et de sa transcendance, il nous demande d'observer l'univers entier et d'observer l'histoire. Il nous dit que les arguments du Coran sont des arguments d'ordre de l'observation des lois de l'univers et de l'observation de lois de l'histoire. De ce fait donc, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle islam qui serait coupé de la réalité du monde et de son observation. L'une des causes du retard civilisationnel des musulmans vient du fait qu'ils ont oublié ce principe et qu'ils ont confondu l'islam en tant que principe et vision du monde qui donne à l'être humain un certain sens et une certaine mission sur Terre. Ils ont confondu cet islam-là avec la production intellectuelle et civilisationnelle des anciens. Production intellectuelle et civilisationnelle des anciens, qui comporte des choses qui sont intéressantes, qui comporte des choses qui sont de l'ordre de l'erreur, et qui comporte des choses qui sont de l'ordre du dépassé. Dès lors que nous confondons l'islam avec un système clos, coupé de la dynamique même de la société, et Dieu lui dit lui-même, Dieu ne change pas ses règles. Les sociétés et les civilisations fonctionnent selon certaines règles. Si les musulmans ne les connaissent pas alors que le Coran leur demande de les comprendre, il est évident qu'ils seront détruits au même titre que les autres civilisations. C'est normal. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, et tant qu'on n'aura pas saisi le fait que le Coran nous demande, pour être des vrais musulmans, c'est d'étudier la création de Dieu et d'étudier la manière dont il a traité les peuples d'avant. Comment les sociétés fonctionnent et comment l'univers fonctionne. Si on n'a pas cette connaissance-là, à l'aune de l'idée que nous nous faisons de Dieu et au nom duquel nous lisons le monde, on n'y arrivera pas. nous sommes en train de juste régurgiter, de boire et de régurgiter le peu d'eau que nos anciens ont pu tirer de la source qu'est le Coran. Et c'est cette eau stagnante que nous utilisons tous les jours pour dire, c'est ça l'islam. Il faut enlever cette eau stagnante et aller à la source directement. Si ma métaphore est claire, on peut comprendre pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à nous en sortir parce qu'il y a un blocage intellectuel. Nous pensons que il n'y a de vérité que dans l'imitation. Or, ça, c'est l'attitude des gens vaincus civilisationnellement. C'est ce qu'Ibn Khaldoun a expliqué. Le vaincu suit toujours le vainqueur et n'a plus ses propres capacités d'initiative civilisationnelle. Il est dépendant. Matériellement, il est dépendant. Encore pire, spirituellement. Et ça, c'est dû au type d'éducation que nous avons fini par donner à nos enfants. La façon dont on éduque la communauté musulmane, c'est pour les préparer à être des moutons qui attendent un berger.
D'accord. Hamdi Ben Aïssa, donc dans l'analyse des causes qui peuvent expliquer cette décadence que nous avons décrit, Ousmane Timera expliquait le fait que finalement des éléments historiques, des avis, des décisions, des pratiques ont été d'une certaine manière islamisées, sacralisées et amalgamées avec les sources islamiques, produisant une répétition vaine, puisqu'elle n'est pas adaptée dans certains de ses aspects. Hein. Il faut faire aussi attention à nos formulations. Voilà, est-ce que vous partagez cette analyse? Et comment retrouver le chemin qui mène à la source, si je veux dire les choses ainsi? Et pourquoi un certain nombre d'acteurs ou de dynamiques sociales n'ont pas réussi à revenir à cette source?
Absolument, oui. Je partage le point de vue qu'il y a cette différenciation à faire entre deux islams. Entre l'islam que j'aime appeler principal, intégral, originel, l'islam de Dieu, et l'islam conventionnel, l'islam qui est devenu conventionnel, habituel, qu'on voit aujourd'hui, qui est produit effectivement de réflexions, qui est produit d'erreurs, qui est produit d'accidents, qui est produit, je peux l'appeler l'islam accidentel aussi, hadith, qui est produit d'erreurs, qui est produit d'avis, qui est produit d'interventions des musulmans au cours des 14 siècles passés. Et effectivement, on voit aujourd'hui que nous sommes dans ce blocage, comme l'a très bien signalé Ousmane, que voilà, à chaque fois qu'on veut apprendre l'islam, à chaque fois qu'on veut enseigner l'islam, à chaque fois qu'on veut parler au nom de l'islam, nous sommes appelés à cet islam plutôt conventionnel, à cet islam dans sa dimension limitée et limitante, donc qui se réduit à des croyances limitantes et des certitudes fatales, je dirais, vraiment, des dogmes très qui ne sont pas cohérents, qui sont pas en harmonie avec la raison.
Vous avez des exemples? Vous pensez à des exemples pour qu'on comprenne un peu, pour éviter justement qu'on oui. considère que cette critique oui. s'établirait sur oui. des éléments oui. Qui peuvent être considérés comme consensuels dans la communauté musulmane, puisqu'on parlait de l'islam. Est-ce que vous pensez à certains exemples de par rapport à la critique que vous faisiez sur des dogmes ou sur des éléments qui ne correspondent peut-être pas à notre temps?
Par exemple, lorsque ok, il y a la question des dogmes, il y a aussi la question des règles de fiqh, etc. Lorsque je réduis l'islam à la aqida et au fiqh, lorsque l'enfant, lorsqu'il rentre à l'école, ou l'élève qui va étudier les sciences islamiques, lorsqu'il va étudier à l'école, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle philosophie islamique, par exemple. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle pensée islamique. Ou même s'il y a quelque chose qui s'appelle pensée islamique, ça va être juste des dogmes et des cours de fiqh. Lorsque je vois des parcours de 8 ans, voire de 12 ans, pour devenir un alim, ou pour devenir un allama à Hadramaut, ou au Pakistan, ou en Inde, vous voyez. Et là, je ne vois pas dans ce parcours-là la philosophie, je ne vois pas dans ce parcours-là la pensée, et je ne vois que le fiqh, ou vraiment des cours de aqida qu'on reprend, chacun, et ou le fiqh, ce qu'on appelle les règles, les règles de sharia, etc., que nous sommes en train d'étudier et de réétudier. ou des cours de hadith aussi, mais pas selon une lecture critique qui nous donne accès à la sagesse prophétique, ou des cours de tafsir encore pas selon une lecture critique, etc. Vraiment, ce sont les mêmes choses qu'on reprend. Voilà, c'est l'exemple que je donne. C'est les écoles islamiques que nous avons aujourd'hui, c'est les madrasas que nous avons aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elles produisent, etc. Vous voulez plutôt des exemples des choses
particulières? Oui, après, ça situe quand même le propos. Bon, vous voulez dire que alors, Malik parlait de Malik Benhabi, Ousmane Timar parlait de Malik Benhabi tout à l'heure. Malik Benhabi parlait des idées mortes, des idées mortelles.
Oui.
Donc, je me disais que dans la manière dont vous décriviez finalement l'enseignement de l'islam tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un enseignement purement traditionnaliste, je ne veux pas dire traditionnel, mais traditionnaliste, c'est-à-dire qui transmet un contenu tel quel, mais sans volonté de l'actualiser, sans volonté d'en saisir le sens, sans volonté de le questionner ou de l'interroger, on a l'impression que c'est presque des sciences mortes.
Effectivement, il y a toujours dans la nature, Dieu il a créé le maut ou la hayat. Il y a le poids de la mort qui tire, il y a la force de vie qui régénère toujours. On constate aujourd'hui que la force de vie, elle est essoufflée dans le monde islamique. Et que le poids de la mort de la masse inconsciente, de l'islam populaire, de l'islam popularisé, même dans les mosquées, même chez les savants, et je parle surtout dans le monde sunnite, bien que c'est un constat qu'on peut généraliser partout dans le monde musulman, je dirais dans le monde chiite, ils sont un peu plus chanceux parce que leurs savants étudient la philosophie, étudient la pensée, et n'ont pas la même formation. Et honnêtement, on n'a pas, nous, dans le clergé sunnite, on n'a pas des équivalents, vraiment des personnes qui peuvent parler homme à homme avec des membres du clergé chiite. Je ne dis pas qu'on n'a pas de penseurs ou libres, parce que dans le monde sunnite, on se trouve aujourd'hui, dès que tu veux devenir un penseur libre, tu es excommunié. Tu ne peux pas vraiment rentrer dans la case d'une école ou être d'une house, etc. Je veux revenir ici à la question de la source. Vous avez dit, nous avons accès aux mêmes sources. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas accès aux mêmes sources. Parce que, c'est quoi la source? Est-ce que c'est le texte? Non. Cette religion, selon comment je la vois, comment je l'ai reçue, elle ne se repose jamais sur un texte. Elle se repose jamais sur un texte. Elle se repose sur des êtres vivants qui ont su vivre et faire marcher le texte et marcher avec le texte. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana Qur'anan yamshi. Ali ibn Abi Talib.
Donc le prophète était un Coran qui marche.
Ah oui, barakallahu fikum. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marche. Selon le texte en soi, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé les khawarij. Le texte découpé de ses porteurs.
Donc les Khawarij, un courant de l'islam qui a combattu Ali ibn Abi Talib, et qui s'était développé déjà sous le califat de Osman.
Oui.
Voilà, donc c'est pour nos auditeurs.
Barakallahu fikum. Donc parce que c'est quoi les sources? Et selon la version d'un hadith que tous les musulmans sont d'accord dessus, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé son départ, il nous a confié à deux sources. Il a dit taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadhallu abada. Lan tadhallu abada. Je vais laisser en vous et parmi vous quelque chose, une corde. Si vous vous attachez à cette corde-là, vous n'allez pas perdre le nord, vous n'allez pas perdre la direction. C'est quoi la direction? C'est votre mission. Votre mission comme Kuntum shuhada'a 'ala an-nas, votre mission que Dieu vous donne.
Donc parce d'être que, des témoins pour d'être devant, des devant témoins, les hommes, devant
et qu'est-ce que ça veut dire des témoins? C'est pas témoigner, lui il est bien, c'est pas être des juges, lui il va rentrer au paradis, lui il va rentrer à l'enfer. Non, d'être des avant-gardistes, d'être des modèles, d'être des pilotes, d'être les leaders éthiques, spirituels, des valeurs de l'humanité, de la bienfaisance, de l'agir, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles sont ces deux sources-là? Il a dit « Kitab Allah hein? »« Wa itrati ahli bayti » Kitab Allah, la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne Et c'est parce que kitab, ça peut vouloir dire le Coran, oui. C'est le Coran. Mais ça veut dire le Coran dissocié de l'autre kitab, qui est qu'est-ce qu'Allah kataba alayna, qu'on trouve dans Surat al-Ma'ida, qu'est-ce que Dieu a écrit pour nous, il nous a relevé, il nous a défini pour nous. Pourquoi? Pour quelle raison? Dans Surat al-Ma'ida, on trouve les covenants, on trouve les pactes que Dieu a pris, voilà, sur Bani Israël, après ça, sur les chrétiens, après ça, et maintenant, c'est vous. Vous avez ce mithaq-là, afin que vous avez ce pacte-là, afin que vous soyez les témoins de Dieu, hein, sur terre, c'est-à-dire afin que vous soyez les leaders par vos éthiques, etc. Afin qu'on soit pas, afin qu'on perde pas cette mission-là, nous avons besoin beaucoup plus que d'un texte. Nous avons besoin des personnes intelligentes, mais aussi qui ont reçu une tarbiyah. C'est pas juste des génies.
Donc une éducation...
Nous avons besoin des personnes intelligentes qui ont le potentiel. Et Allah yastafi wa yakhtar. Dieu, dans cet équilibre cosmique-là, il a créé, il a fait des différences. Il y a des personnes dotées d'intelligence qui ont une manifestation. Il y a des noms divins qui sont manifestés sur eux, plus que d'autres. Ils sont là pour ouvrir avec des clés. Mais ces personnes intelligentes-là, ont besoin de recevoir une tarbiya, hein, une éducation spirituelle, si tu veux, ou plutôt un développement spirituel et personnel, pour être plus littéral, auprès des personnes qui ont reçu cette tarbiya, d'accord, un développement spirituel personnel, auprès de personnes qui ont reçu cette tarbiya, jusqu'à ce qu'on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ma définition de itrati ahli bayti, c'est pas la définition que les chiites politiques,
les gens de la demeure prophétique,
voilà. non, itrati ahli bayti, ceux qui ont été éduqués dans l'école maison, c'est pas l'école de la république, c'est pas l'école populaire, ceux qui ont reçu l'éducation de ma maison à moi, de la maison prophétique, avec la définition large et profonde de qu'est-ce que cela veut dire une maison prophétique. On parle pas des membres physiques, on parle d'une philosophie, on parle d'une éthique, on parle d'une façon de voir les choses, on parle d'une vision du monde, etc.
D'accord.
Donc voilà la source.
Très bien.
Et du coup, juste pour conclure, je suis pas d'accord que nous avons toujours accès à cette source-là aujourd'hui. Je pense que la crise aujourd'hui, que nous avons pas accès à ce modèle prophétique, à ces modèles prophétiques des personnes qui sont
très bien
à la fois intelligente, donc Dieu les a choisis.
D'accord.
Deux.
Mais qui n'ont pas eu accès à l'éducation et à l'esprit. Voilà. Très bien. Ousmane Timéra. Alors, donc, toujours dans cette analyse des causes, donc, Hamdi Ben Aïssa réfutait l'idée que nous avions toujours accès aux sources.
Aux mêmes sources,
dans ce constat d'analyse. Est-ce que vous voyez d'autres causes? Et au-delà de du constat, pour commencer à avancer dans le chemin des propositions et des alternatives qui peuvent être développées, comment voyez-vous, quelle méthode, j'ai envie de vous dire, selon vous, quelle méthode faudrait-il proposer pour retrouver un accès intelligent, vivant et actuel aux sources de l'islam et pour finalement défendre cette idée qu'il existe une actualité, notamment une actualité coranique, une actualité du Coran, ou une actualité des sources islamiques, puisqu'il y a aussi une actualité des enseignements prophétiques. Voilà, est-ce que pour vous, il existe une méthode ou un chemin qu'il faudrait emprunter pour revenir vers la source?
Bon. Avant de répondre à la question, il me semble quand même que la question de la source doit être aussi réinterroger. Mm-hmm. Nous avons le Coran. Mm. C'est la source principale. Tous les courants musulmans sont d'accord sur son contenu et sur le fait que c'est leur source principale. Ils auront peut-être des désaccords sur les sources secondaires, comme la Sunna. Même la Sunna, en principe, on est d'accord. C'est le contenu où il y aurait des divergences. Le Coran, en principe et en contenu, il n'y a pas de désaccord là-dessus. Pour moi, ça doit être le point de départ. Le point de départ, et pour ce faire, ce point de départ doit être dégagé, libéré des interprétations et du carcan dans lequel on a fini par le mettre à travers nos différents commentaires les manières dont on l'a appliqué ou pas appliqué, en prenant pour référence l'application des anciens. Nous avons un gros problème, chiite ou sunnite, ou ibadite, ou zéidite, ou d'autres courants, ou soufis et d'autres courants confondus. Nous avons un gros problème dans l'idée que le Coran est au-delà de l'application des compagnons et de ceux qui sont venus après eux. Ça, dans le monde musulman, ce débat n'est pas tranché. Est-ce que le Coran se limite à la compréhension des anciens? Est-ce que le Coran se limite même à l'application de la génération première des compagnons du prophète? Allez, salatou salam. Moi, je pense que non. Je pense que l'islam n'est pas passé, mais que l'islam est à venir et que les anciens n'ont même pas appliqué 10% du potentiel de l'islam et du Coran.
Ce que le prophète a dit, par rapport au Coran, il va être une vierge.
Il est infini, effectivement. Donc ça, c'est un premier point. Et dans le débat musulman et entre intellectuels et entre les musulmans, cette affaire n'est pas tranchée. Il n'y a pas de débat de fond là-dessus. Deuxièmement, la question des sciences islamiques et de comment est-ce que les sciences islamiques ont été fondées. Étudier l'évolution, l'histoire, l'épistémologie des sciences islamiques, parce que les sciences islamiques ne sont pas l'islam. Les sciences islamiques sont un moyen d'appliquer, de comprendre les enseignements de l'islam. Ce qu'on a du mal à confondre, à séparer. C'est pour ça que quand on enseigne l'islam, on enseigne immédiatement aux gens les sciences islamiques. Non. On peut ne pas connaître les sciences islamiques et être un bon musulman.
Absolument.
Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est musulman alors qu'on ne maîtrise pas les sciences islamiques? On a quand même accès à un enseignement de l'islam, à la vision de l'islam. Cette vision de l'islam, sa philosophie, elle est contenue dans le livre, d'abord. Et je pense effectivement que le livre est accessible à tous.
Quelles sont les conditions pour accéder à ce sens-là? Vous dites, elles sont accessibles à tous.
Elles sont accessibles. Le Coran est accessible à tous à condition qu'on se mette à l'écouter.
Voilà.
Déjà, effectivement, ceux qui comprennent la langue arabe, qui le lisent directement. Sans passer par l'intermédiaire.
C'est une première compétence, déjà. Donc, il faut quand même cette compétence-là.
Non, attends. Et ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qu'on fasse en sorte qu'ils aient accès à son sens. Et le sens, même si le sens donné, même s'il n'est pas à la hauteur de la lettre même pure, on a quand même accès à son sens. Sinon, il n'y aurait pas des millions de musulmans sur Terre qui ne sont pas arabes, qui ne comprennent pas l'arabe et qui pourtant appliquent l'islam. Donc l'islam, en tant qu'enseignement, ne se limite pas à sa langue. C'est son sens qui doit être transposé et donné. Et donc, on doit avoir accès au Coran directement, soit par des bonnes traductions, soit par la langue arabe, et avoir accès directement à le méditer. On y a accès. Premièrement. Deuxièmement, la question des sciences islamiques, nous devons le repenser. Nous devons dépasser les sciences islamiques, mais dans quel objectif? Quel est notre objectif en réalité? Quelle est la stratégie divine dans la mise en place de l'islam depuis le début? Quand on regarde bien ce que dit le Coran, notamment dans la surat al-Baqarah, dans la surat al-Jumu'ah, dans la surat al-Saff, nous voyons très bien qu'il y a une stratégie qui indique que, premièrement, quand le prophète Mohammed vient, il met en place une nouvelle version de l'islam ancien qui fait la synthèse de ce qui s'est passé avant tout en critiquant et en élargissant la base de la communauté musulmane, non pas sur un peuple comme cela fut le cas avec les enfants d'Israël, non pas à partir des miracles extraordinaires comme cela fut le cas par les enfants d'Israël. Il dit ça, c'est abrogé. Maintenant, c'est une nouvelle communauté mondiale qui est celle des Ummiyoun.
Universel.
C'est-à-dire l'ensemble des peuples qui n'ont pas reçu de livre auparavant. C'est ceux-là qui forment la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam. Et c'est cette dynamique de remplacement entre les différents peuples. Comme il le dit si bien, si jamais vous vous détournez, il vous remplacera par d'autres peuples.
Donc c'est un grand remplacement.
Il y a des remplacements de leadership.
Et
on l'a vu dans l'histoire. On l'a vu dans l'histoire. La vision civilisationnelle du Coran, on l'a vu dans l'histoire. À un moment, il y a les Arabes, à un moment, il y a les Berbères, ensuite, il y a les Perses, ensuite, il y a les Indiens, ensuite, il y a les Turcs. Des peuples viennent les uns après les autres remplacer
civilisationnelle
dans le leadership à l'intérieur de la communauté musulmane. Ensuite vient une deuxième étape, il le dit dans la sourate At-Tawbah, dans la sourate aussi As-Saff, où c'est l'étape universelle et cosmique. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Nous sommes dans cette étape-là. Et donc on ne peut pas, et je termine là-dessus, on ne peut pas répondre à ce défi que la mondialisation nous pose. Pour penser les modalités cosmiques faire atteindre l'islam sa dimension cosmique, on ne peut pas le faire avec les outils des sciences islamiques. On ne peut pas le faire avec les outils de notre héritage. On doit...
Quels sont les outils qu'il faut développer? Alors, j'insiste sur cette question, c'est une question importante, la question de la méthode. Oui. Parce que très bien, il faut accéder, avant de donner la parole à Hamdi Ben Aïssa, cette question de la méthode, elle est fondamentale. C'est-à-dire, comment on fait? Parce que il faut nécessairement un cadre minimal, je dirais, pour éviter justement toute manifestation anarchique qui s'appuierait sur le Coran, toute interprétation libre qui serait fantaisiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même un cadre. On peut pas partir de rien. La question que je vous pose, c'est d'être un peu plus précis sur la méthode.
Le cadre est le Coran lui-même, premièrement. Deuxièmement, il y a une manière de lire le Coran qui doit être de l'ordre de l'harmonisation. La lecture que nous avons du Coran et qui fait qu'il ne nous guide plus, c'est une lecture qui fragmente le Coran. Ouais.
Vous en parlez dans votre livre,
Lire le Coran. C'est une lecture qui fragmente le Coran et qui n'est pas à l'écoute du Coran, qui impose au Coran l'expérience musulmane, issue des différentes expériences civilisationnelles. Mais ce n'est pas une lecture qui est à l'écoute du livre. Et pour être à l'écoute du livre, il faut le lire dans son ensemble, dans son harmonie. C'est un premier point. Deuxième point, développer une compétence théologique et philosophique de création de concepts. Nous ne savons pas créer des concepts. Et ça, c'est une compétence à la fois de créativité politique...
C'est le métier des philosophes, c'est pas le métier des théologiens.
Si, la théologie et la philosophie, à mes yeux, sont les versants, la face et le pile du même message, du même travail, en fait. Donc, indépendamment des mots, le travail de concept est à créer. Par exemple, quand nous regardons le Coran, le Coran ne met pas en conflit la divinité, l'humanité, la nature et l'histoire. Dans les visions précédentes d'avant l'islam, il y a un conflit, notre cheikh l'a indiqué hier, entre les divinités ou la divinité et l'humain. L'humain ne peut s'affirmer qu'en défiant le divin. Et le divin ne peut exister qu'en écrasant l'humain. Est-ce qu'on a cette vision-là? Or, la théologie musulmane, les sciences islamiques de façon générale, la falsafa, est né dans l'idée qu'il faut réduire la liberté humaine pour accorder la toute-puissance divine ou limiter la toute-puissance divine pour permettre la liberté humaine. Ce conflit-là, le Coran ne le présente pas comme ça. Absolument. Ce paradigme doit être dépassé. Ouais. Quand à un moment donné, nous voyons la façon dont le Coran parle de l'évolution des religions. Les différentes étapes de l'humanité, celle de la femme et avec Adam, celle des tribus qui est l'essentiel de l'évolution de l'humanité, puis celle de l'universel et des empires. Nous voyons le message qui s'adapte au fur et à mesure et qui prend en considération l'étape dans laquelle se trouvent les communautés, mais toujours avec le même noyau qui est rappelé et ensuite qui est développé jusqu'à sa maturité qui est celle de l'islam. D'accord. Mais donc il y a une conception à la fois de la civilisation et son évolution, et une conception, c'est-à-dire de l'histoire politique de l'humanité et de l'histoire spirituelle de l'humanité. Ça, c'est de la création de concepts.
D'accord. Très bien. Hamdi Ben Aïssa, dans cette recherche d'une méthode ou d'une voie ou d'un chemin pour s'immerger dans la source divine, la source coranique, la source prophétique, Ousmane Timera expliquait que il fallait être à l'écoute du texte sans lui imposer des grilles de lecture qui seraient les nôtres, et qu'il fallait développer une capacité de conceptualisation. Est-ce que c'est possible et réalisable, cette idée de ne pas greffer sur le Coran, je dirais, tout ce qui constitue notre réalité, c'est-à-dire notre héritage, notre éducation, nos expériences, on pourrait extrapoler cette idée-là, notre expérience, et aussi l'époque dans laquelle nous baignons, qui est une époque postmoderne. On pourrait aussi nous faire ce reproche-là, puisque nous sommes aussi tout homme et fils de son temps. On pourrait aussi nous reprocher de développer une lecture qui serait elle-même enfermée dans notre phase historique. Au moins aurait-elle le mérite d'être dans une proximité historique, parce que voilà, c'est vrai, et c'est tout à fait vrai. Mais est-ce qu'il est possible de lire le Coran et d'être à l'écoute du Coran de manière presque dans une tabula rasa, c'est-à-dire de manière brute, sans être influencé par tout ce qui constitue notre humanité?
Avant, oui, barakallahu fikoum, et merci beaucoup. Vraiment, j'aime bien écouter Osman, comment il donne les concepts. J'aime bien les questions que vous posez. C'est quoi le Coran avant tout? Vraiment, nous avons besoin de réfléchir. C'est quoi le Coran? Qu'est-ce que le Coran veut offrir à l'humanité avant tout? Est-ce qu'on parle des idéaux? Hein? Est-ce qu'on parle vraiment? Est-ce que le Coran, dans sa proposition, il nous propose un idéal ou il nous propose un projet? Vraiment, cette question-là, elle est très importante parce que moi, lorsque je vois le Coran, je le vois en tant qu'expérience. Je le vois pas en tant que un texte. Voilà l'idéal. Vous devez, vous, être humain, travailler pour l'atteindre. Il a une expérience organique. Je le vois comme un champ fertile, un milieu propice. Toujours, je suis un peu biaisé par ma vision du monde, que Dieu, l'Arabe, c'est lui l'éducateur, et mon rôle sur Terre, c'est l'élève. Je vous l'avoue tout de suite. Toujours, moi, je me vois dans ce rôle-là. Je vois l'être humain, Adam, allama Adam al-asma'a kullaha, je suis toujours Adam, et je vois ma conception du divin, elle est toujours al-mu'allim, et son rôle principal, c'est l'enseignant, mon rôle, ou l'enseigneur, si vous voulez, développeur, et mon rôle principal, c'est être élève, et tout ce qui est autour de moi, c'est une leçon, et c'est une... Donc, le Coran, ce n'est pas des idéaux à atteindre. Pour moi, c'est une expérience, c'est une mo'anette, c'est une souffrance, hein, même.
Hein, expérience de l'humanité?
C'est une expérience humaine à rentrer dedans. Moi, pour moi, je ne peux pas dissocier le Coran de Mohammed. Je ne peux pas dissocier le Coran de la souffrance de Mohammed. Je ne peux pas dissocier le Coran de la souffrance des compagnons. Je ne peux pas dissocier le Coran de la souffrance de l'être humain authentique qui veut vivre une vraie relation réel avec Allah. Pour moi, je vois le Coran un terrain fertile, un projet. Et lui-même, il est en progression.
Quel est ce projet?
Ce projet-là, c'est le développement de l'être humain. C'est le développement de l'intelligence humaine. Donc, le Coran, par exemple, dans ses propositions, lorsqu'il me donne des propositions de charia, par exemple, ces propositions de charia ne sont pas figées. Lorsqu'il me dit les dhakari misl hadh al-unthayayn, par exemple, si je donne un exemple, vous voulez des exemples factuels. Lorsque le Coran, il me dit, le mâle dans l'héritage, il a droit au double.
Hein? Donc l'homme, voilà.
Il a dit Zachary, voilà, Zachary oui, c'est le mâle.
Mais non, c'est juste pour différencier du mâle
oui,
et mâle.
Oui, mais c'est ça, voilà. Voilà. Oui, merci beaucoup. L'homme, voilà. Il a droit au double de la femme, etc. Moi, je ne vois pas ça, on ne comprend pas ça comme quelque chose de figé dans... Même le texte du Coran lui-même n'est pas figé. Que dire les lectures qui sont venues après? Nous avons un double problème aujourd'hui. Un, que nous avons figé le Coran, l'interprétation du Coran, comme l'a bien dit Osman, dans la lecture des anciens, at-tafsir bil-ma'thour, hein, l'interprétation par la compréhension d'Omar al-Khattab, et on n'est même pas sûr si c'était une compréhension ou c'est un goût.
Une opinion, quoi.
Même pas une opinion, un goût du moment, parfois. Par exemple, Omar al-Khattab, il est devant le tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou devant le corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, dans ce moment d'émotion, il dit des choses. Il dit des choses par rapport... Ces choses-là ont été prises comme des interprétations de versets du Coran. Alors que non, c'est un goût, c'est un hal, c'est un état par lequel il passait en ce moment-là. En tout cas... c'est ça l'interprète. Nous avons figé le Coran dans ce tafsir, dans cette exégèse des anciens. Et là, on n'ose plus lire hein, le Coran. On n'ose plus nataghanna bil Coran. On n'ose plus lire avec Y aussi, comme mon confrère le dit. Le Coran, taghanni wal istighna. On n'ose plus prendre le Coran comme notre voilà, le Coran c'est suffisant pour nous, alors qu'il doit être suffisant, il doit être kafi, awla mekfi bi rabbika, ça doit être kafi, ça doit être suffisant. On n'ose plus lire, on n'ose plus aller directement au Coran, mais je pense aussi que notre conception du Coran elle-même, elle doit elle doit être challengée, elle doit être révisée.
Vous parliez de développement, je voudrais juste clarifier ce point. Mmh. Vous disiez que le projet du Coran, c'était le développement de l'être humain.
Oui.
Ça veut dire quoi? Vous voulez dire que l'être humain ne peut pas se développer s'il n'a pas accès au Coran?
Oui. Oui.
Vous voulez dire qu'il peut pas, on ne peut pas considérer que des sociétés humaines ou qu'une humanité puisse se développer indépendamment du Coran?
Je ne vois pas. Impossible. Parce que, pourquoi? Parce que le Coran, c'est la révélation divine. Et même donc il est impossible que l'être humain sur Terre, puisse atteindre sa maturité humaine, c'est-à-dire de façon holistique, spirituelle, psychologique, sociale et tout, sur tous les plans, sans passer par Dieu, parce que sans passer par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est essentielle, dans tous les sens de essentielle. Elle est essentielle pour l'être humain. Elle n'est pas juste là. Le problème, nous avons réduit cette parole-là à quelque chose juste par laquelle les musulmans ont des interprétations limitées, par laquelle les musulmans, un code hein, pour les musulmans. Mais si on revient au Coran, dans sa définition la plus essentielle, la plus profonde, le Coran, c'est un champ de progression. C'est un champ qui s'est lancé déjà. On ne peut pas même dissocier les civilisations, même les civilisations qui n'ont pas lu le Coran. Ils sont dans le Coran. Le Coran, il a lancé quelque chose. On ne peut pas dissocier. Il est là. Hein? Il est, c'est un projet. C'est un projet organique. La Terre, elle est là. Donc, on ne peut pas dissocier, par exemple, la civilisation occidentale d'aujourd'hui du Coran. Je ne peux l'avoir qu'une conséquence de cette révélation, de cette révolution dans l'intelligence humaine que le Coran a produit. Mais nous avons toujours besoin de revenir à cette source-là pour parce que nous en avons besoin non seulement comme démarreur.
Pour actualiser, vous voulez dire?
Pour actualiser et pour nous protéger et pour préserver et pour rester sur la voie droite. Nous avons un besoin aujourd'hui universel qui est à l'éthique pour vraiment revenir, forger et nous ressourcer dans l'éthique, hein, du Coran en particulier. Mais de quel Coran parle-t-on? Selon quelle conception?
Alors justement,
etc.
Justement, de quel Coran parlons-nous, Ousmane Timéra?
Non, moi cette question, je ne la pose pas. Cette question, je ne la pose pas parce que... Pour moi, les choses sont claires concernant le Coran. Le Coran, c'est le livre révélé que nous lisons et qui a un contenu.
Est-ce qu'il y a un projet coranique?
Il y a un projet coranique.
Quel est-il?
Le projet coranique s'adresse... Il faut regarder le projet coranique par rapport à l'objectif qu'il donne à l'humanité. Qui s'adresse aux êtres humains. Il dit que l'humanité a un but et un sens. Ce but et ce sens, il le dit dans certains passages. Il est là pour être le lieutenant de Dieu sur Terre. Et cette lieutenance doit s'appliquer dans la civilisation de la Terre. Et pour ce faire, il lui a insufflé l'esprit qui lui a donné la capacité de la liberté, de la volonté et de nommer les choses.
Ça veut dire quoi être le lieutenant de Dieu
sur
Terre?
Le lieutenant de Dieu sur Terre, ça veut dire faire sur Terre en tant qu'humain, dans la démarche divine de la gestion du cosmos. Les pas que j'emprunte dans mon action en tant qu'humain doivent s'inscrire dans la vision divine, d'où la révélation. Mais la révélation, quand elle vient, ne vient pas me donner une information que je n'étais pas capable de comprendre et de connaître. Ces informations étaient déjà en moi.
C'est une révélation.
C'est pour ça que c'est une révélation, c'est pour ça qu'il dit que c'est un zikr. C'est un rappel. Mais qu'est-ce qui fait que l'être humain, la civilisation humaine, l'humain en tant qu'individu, peut se perdre? Parce qu'il se coupe de l'enseignement transcendant. Et il se restreint à sa logique naturelle. Puisque nous avons, nous, deux logiques, deux dimensions. Une dimension naturelle et une dimension spirituelle. Et l'idée de relier les deux, c'est ce qui fait qu'on est moustakhlef. Le jour, à un moment donné, on se contente de ce qu'on appelle la religion, sans tenir compte de l'univers et de son fonctionnement, nous devenons des derviches tourneurs. Toujours en train de mendier. Mais si de l'autre côté, nous mettons en place une civilisation sans tenir compte, c'est-à-dire la gestion de la terre, sa fructification, sans prendre en compte la dimension spirituelle et la vision du monde, les principes, la philosophie, on se transforme en destructeurs de la terre. Et il faut un enseignement qui permet d'être des de civiliser la terre selon les principes divins.
Ça voudrait dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, être calife ou lieutenant de Dieu sur la terre.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, et ça fait lien aussi avec la question sur le Coran. Est-ce que le Coran est un livre éternellement, j'allais dire, d'actualité, capable de d'apporter des réponses ou des orientations à l'être humain pour réaliser, pour accomplir sa destinée, hein, si je puis dire les choses ainsi. Ça veut dire quoi aujourd'hui d'être lieutenant de Dieu sur la terre? Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple?
Il faut que je parle d'un exemple concret,
exactement,
pour monter en généralité. Oui. Parce que si on reste dans les années, ils vont dire on est des philosophes.
Ben c'est le sens de ma question. C'est le sens de ma question. Voilà.
Regardons la question sociale. Des manifestations ont lieu. On a vu ce que c'était. Ils veulent nous faire travailler 2 ans supplémentaires. Les gens ne veulent pas. Très bien. Pourquoi ils ne veulent pas et pourquoi refusent-ils? Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre esclave de son patron. Ce n'est pas le but de notre vie. Et ça, il n'y a pas besoin d'être musulman pour sentir ça. Mais le musulman doit le sentir encore plus parce que c'est ce que le Coran lui dit. Premièrement. Deuxièmement, de quelle manière donc partageons-nous les richesses de sorte que l'être humain puisse être dédié à sa mission de calife de Dieu sur terre, c'est-à-dire fructifier ce que Dieu lui a donné comme potentiel, être contributeur sur le plan matériel, être contributeur sur le plan spirituel et établir une société de solidarité où l'humanité entière met en commun ses compétences et ses capacités pour réaliser une civilisation qui relie les lois naturelles avec les lois morales. Maintenant, revenons à l'affaire du travail. Le Coran nous dit clairement qu'il y a l'imam al-akataï maloukou, qu'on traduit par esclave. Mais malheureusement, les musulmans disent c'est des esclaves et que Dieu a donc permis l'esclavage et que donc c'est quelque chose de passé. Et donc cette partie du Coran n'est plus d'actualité. Non. C'est faux.
C'est le contrat.
Le Coran, quand il parle des mamal akataï manoukoum, ce sont ceux qui sont dépendants de vous. Et dans toute société, il y a des gens qui dépendent de gens puissants, qui détiennent les moyens culturels et les moyens économiques. C'est ce qui fait qu'il y a des esclaves ou des serfs ou des prolétaires ou des précaires ou des immigrés ou des sans-papiers, bref, des gens qui font le sale boulot. Très bien. Le Coran propose quoi ici pour libérer ces gens-là de ces situations de domination? Premièrement, dans la sourate An-Nahl notamment, dans son signe 73 et 74, il indique le fait que tant que tu n'as pas les moyens d'avoir des biens et de contribuer, tu es un esclave, tu es possédé par autrui et tu ne peux rien faire de ta vie. Deuxième exemple qu'il donne, il dit, il y en a un autre, s'il n'a pas la possibilité d'être sur le droit chemin, d'avoir une vision du monde, et de marcher de façon autonome et de contribuer à la justice, il est dépendant de son maître qui l'oriente là où il veut, et cela ne lui apporte rien. Est-ce que c'est pas ça les conditions de la colonisation? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire aux êtres humains aujourd'hui, et que la modernité a essayé de mettre en place, et sur lesquels on peut être d'accord, c'est de donner plus de temps libre aux gens. Puisque nous avons les moyens technologiques de créer beaucoup de richesses sans avoir beaucoup de biens.
Mais des gens se mobilisent. Par exemple, vous parliez de la question des retraites. Vous parliez de la question des retraites.
C'est un exemple parmi d'autres.
Oui, bien sûr. Mais justement, c'est les exemples qui nous permettent justement de comprendre.
Mais en termes de politique publique.
Voilà, des gens se mobilisent sur la question des retraites, les salaires. On pourrait parler de beaucoup de choses. Et ils n'agissent pas, ils ne sont pas inspirés dans le cadre. Est-ce que tout groupe humain qui agit dans ce sens-là, même s'il n'est pas musulman, accomplit la lieutenance divine?
Oui. La question écologique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui, loin de toute forme de spirit, enfin, si c'est de la spiritualité, ils ressentent qu'il y a un truc qui ne va pas.
Ouais.
On ne peut pas vivre totalement dans le besoin de la croissance pour la croissance en train de détruire notre environnement. Mais c'est aussi la destruction de notre environnement intérieur. Et c'est ça que la jeunesse aujourd'hui, et c'est pas un hasard si le Coran dit que ceux qui suivent les prophètes à chaque fois, c'est les plus jeunes. Il y a un sentiment une sensibilité chez la jeunesse qui comprend qu'on est dans un blocage. Les vieux, c'est mort pour eux. Mais il n'y a pas d'écologie, par contre, sans idée du divin. Parce que la nature n'a pas de droit en tant que telle. Les devoirs que nous devons avoir envers la nature ne peuvent pas provenir de nous-mêmes en tant qu'humains. Elles doivent provenir d'une idée que nous nous faisons de la nature. Que la nature elle-même est l'expression d'autre chose qui nous oblige, nous, à bien traiter la nature. Donc il faut une vision ici. Et en conséquence, des politiques publiques qui vont dans le sens non pas de la destruction, mais d'une vision cosmique. Comment interagir mieux avec la nature, nous faire comprendre que nous-mêmes participons d'un tasbih universel, d'une adoration universelle qui se voit dans l'ordre cosmique et mondiale. Si on n'a pas cette vision-là, et qu'on a vu une vision de tête à tête et de séparation ou d'opposition, eh bien effectivement, on détruit la nature et on détruit tous ceux qui ne nous ressemblent pas. D'accord. Et c'est ça aujourd'hui la mondialisation, malheureusement. Et on peut multiplier plein de choses. Pour finir, pour l'esclavage, il y a un gros... Pourquoi est-ce que cette vision-là, elle est les musulmans sont incapables de la voir? Parce qu'ils vont te dire déjà, ouais, mais Ousmane, Dieu l'a pas interdit l'esclavage. Donc on a le droit d'avoir des esclaves, du moment qu'on les traite bien. Et donc un patron peut faire ce qu'il veut aussi de son salarié, du moment qu'il le paye bien. Et donc même ceux qui travaillent pas, d'ailleurs, c'est des pauvres. Ils travaillent pas, c'est des fainéants. Des musulmans vous disent ça. Mais quand on dit, mais non, attends. Si Dieu dit que l'être humain est calife, s'il dit qu'il est digne, s'il dit qu'on fait partie de la même famille humaine et qu'il n'a pas un qui est supérieur à l'autre, si ce n'est par la piété. S'il est venu dire à Pharaon, tu ne dois pas réduire les enfants d'Israël en esclavage. S'il dit qu'il faut libérer les esclaves à tout bout de champ. Mmh. S'il dit qu'il faut faire en sorte que quelqu'un ne meure pas dans sa dette, que la zakat doit être dédiée pour le libérer de sa dette. Mmh. Parce qu'avant, quand tu étais endetté, tu devenais esclave de celui qui t'avait prêté. Mmh. Quand il met en place tous ces systèmes-là, est-ce que ça ne peut pas être une source d'inspiration pour nous-mêmes aujourd'hui? Libérer un tas de personnes aujourd'hui en France qui meurent dans l'endettement? Libérer un tas de personnes qui vivent dans un esclavage parce que D'accord. le salaire qu'on leur donne n'est pas suffisant pour qu'ils vivent.
Très bien. Alors, Hamdi Ben Aïssa, la même question. Ça veut dire quoi aujourd'hui être lieutenant de Dieu sur la terre? Comment ça se manifeste concrètement dans des actions ou dans une politique, c'est-à-dire un programme, alors pas un programme au sens électoral, mais un programme au sens où on se dirait notre conscience nous incombe d'accomplir tel projet ou tel projet. Voilà, comment vous voyez concrètement cette notion de lieutenance divine? Ça signifie quoi aujourd'hui être lieutenant de Dieu sur la terre?
Barakallahu fikoum. La lieutenance divine sur la terre, c'est être le projet, c'est se définir en tant que je suis le projet de Dieu sur terre. Un projet, mon accomplissement serait lorsque je pourrais, mon accomplissement, la destination vers laquelle je marche, a'boudou, la destination vers laquelle je marche, a'boudou Allah, a'boudou Rabbal Alamin. Donc je marche vers cette, je ne dis pas idéal, mais un accomplissement, ma pleine lune serait lorsque je pourrais effectivement être l'héritier des attributs divins et être géré, être un bon gérant de mes affaires cosmiques comme Dieu lui-même, dans ses akhlaq, takhallaqu bi akhlaq Allah, dit le prophète, dans ses akhlaq, comme Dieu dans son éthique à lui, dans son caractère à lui, dans sa façon de faire à lui, à bien gérer.
C'est une imitation divine, quoi.
C'est pas une imitation, je dis, on grandit en Dieu. On se développe comme l'arbre qui grandit dans la lumière du soleil et la pluie. Vous voyez, on ne devient pas pluie, l'arbre ne devient pas pluie, ne devient pas soleil, mais elle grandit en la lumière du soleil. Nous grandissons en Dieu. On ne devient pas Dieu, mais nous grandissons en Dieu. Donc, en tant que projet, Et j'insiste sur cette question-là, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un idéalisme non plus. Si vous permettez, je retourne parce que j'étais très intéressé par cette question d'esclavage, d'employés, etc. Oui, effectivement, nous trouvons dans le Coran toute cette richesse qui critique l'esclavage, qui c'est pas une condition à accepter, ce n'est pas un status quo à confirmer et à appuyer et à normaliser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une réponse encore plus riche et encore plus développée. Comment on va les libérer, par exemple, ces esclaves-là? Pourquoi le Coran, pour moi, lorsque je dis le Coran ou Mohammed, c'est un. Je ne fais pas cette dissociation entre le Coran et Mohammed. Mohammed, ce n'est pas juste ce simple messager qui a amené quelque chose qui le dépasse. Pour moi, Mohammed, c'est le cœur du Coran et Coran, c'est le cœur de Mohammed. Pourquoi le Coran, la révélation, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'incarnation, la première incarnation de cette révélation-là, ou le premier projet, je dirais, qui grandit dans cette révélation-là, le premier potentiel révélé à travers cette révélation-là et ses héritiers après lui. Pourquoi il n'a pas dit, ok, on met fin à l'esclavage aujourd'hui. Parce que, pourquoi le Coran, il n'y a pas un seul verset qui dit, arrêtez l'esclavage.
Nous avons fait une émission avec Mohamed Diakho.
Oui,
on mettra le lien sur ce sujet.
Ce n'est pas parce qu'il approuve de ça, non. Dieu, il est là, ce n'est pas pour approuver ou désapprouver. Dieu, il est là pour nous développer. Il a un constat, il a une situation, elle est là. Cosmiquement parlant, elle est là. Et il y aura toujours des plus forts et des plus faibles. Et il y aura toujours des dominants et des dominés. Et on se trouvera toujours dans cette situation où il y a des tafaout, et ceux qui sont en haut aujourd'hui vont être en bas demain, ceux qui sont en bas aujourd'hui vont être en haut demain. Il y aura toujours, la terre elle est comme ça. Maintenant, comme être humain, comment on doit gérer ça? Comment on doit travailler sur nous-mêmes et comment on doit travailler sur l'autre? D'où l'éthique du Coran. Il y a toute une éthique. Le prophète, au lieu de abolir l'esclavage comme ça d'un seul trait, il a amené toute une éthique, comment on vit avec, ce n'est pas traité, comment on vit avec. Comment on vit avec ceux qui sont dépendants de nous, contractuellement parlant. C'est une relation d'empowerment. On trouve dans le Coran, dans les enseignements du prophète, le projet, la solution qui nous est proposée, c'est une solution de...
Et aujourd'hui, alors?
D'émancipation, c'est une solution.
Mais alors aujourd'hui, comment?
Un processus, barakallahu fikoum.
Comment vous voyez ça, cette question aujourd'hui? Parce que, effectivement, l'esclavage a été aboli.
Mais il est enlevé de tout faire.
Mais on parle de différentes formes de formes modernes de l'esclavage. Ousmane en a parlé sur les sans-papiers, différentes catégories de personnes qui sont exploitées.
Commençons par les employeurs musulmans. Commençons par vraiment cette conscience, une éthique à nous, qu'on peut se l'approprier, comment traiter son employé. Il parle maintenant de l'entreprise spirituelle dans d'autres vraiment les non-musulmans sont les leaders de cet art là mais commençons par les employeurs musulmans, commençons par écrire des choses pour sensibiliser, devenons vraiment, ressourçons-nous dans le Coran et dans ces textes là pour apporter une éthique, comment ma relation avec mon employé ne soit pas une relation d'exploitation de ces ressources-là pour mon bien-être égoïste, mais plutôt une relation de empowerment, de renforcement, si tu veux, développement, renforcement de cet être humain-là afin qu'il puisse lui-même avoir accès à ce statut de avoir accès
être lui-même employeur, c'est ça que vous voulez dire?
En fait, la question quand même qui se pose ici, c'est est-ce qu'on doit, parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que ce sont ceux qui possèdent qui doivent avoir une prise de conscience morale, on va dire, bon, maintenant on va les aider? Je pense que le Coran indique cela.
Oui.
C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre au sein des sociétés musulmanes, en tout cas à l'époque du prophète, parce qu'il y a eu la guerre des Indis qui ont pris pendant 15 ans Bagdad, c'est une autre affaire ça, mais il n'y a pas eu de conflit entre les anciens esclaves et les anciens maîtres. Très bien. Donc, on a fait en sorte que les anciens maîtres et les anciens esclaves se considèrent comme frères, premièrement. Mais on a aussi institutionnalisé, on n'a pas attendu seulement le fait que de bon cœur, ils le fassent. Il y a des passages du Coran très clairs qui disent à un moment donné dans la sourate An-Nour, et ce n'est pas un hasard si la question de l'esclave dans la sourate An-Nour est traitée en même temps que la question de la prostitution. Parce que les femmes esclaves, on savait à quoi elles servaient. Et il dit à un moment donné, quand l'un d'entre eux vient vous voir pour acheter sa liberté, et que vous voyez qu'il a les moyens de accorder lui, donnez-lui obligatoirement sa liberté, et donnez-lui ce que Dieu vous a donné de bien. Donc il y a effectivement ce processus d'empowerment. La libération mentale, déjà, de dire, idéologiquement, il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Tous les passages mécois dans le Coran visent à dire, il y a un Dieu, tous les êtres humains sont égaux. Maintenant, son application, effectivement, le frère l'a dit. Dire tout d'un coup, c'est interdit l'esclavage, et tu donnes pas les conditions politiques, culturelles, économiques à ces gens-là d'avoir la liberté,
c'est du vent, en fait.
C'est les États-Unis aujourd'hui.
Les États-Unis, c'est passé. Les esclaves, on les libérait, ils revenaient chez leur maître.
De notre,
et ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de biens, ils ont été éduqués comme ça. Donc c'est un processus. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ce processus a eu lieu. De sorte qu'en une génération, il n'y avait plus d'esclaves. Cependant, les musulmans sont retournés là-dessus. Les principaux...
Alors aujourd'hui, hein, pour prendre des exemples contemporains.
Non, mais aujourd'hui, il y a deux choses. Pour commencer déjà, la réforme, elle est où? Le système d'éducation. Comment on forme le musulman? La formation du musulman est une formation qui ne vise pas à en faire un humain plein, souverain et leader.
Dans les familles, vous voulez dire?
Dans les familles, dans les écoles, dans les mosquées, le type de formation que nous avons d'éducation spirituelle et d'éducation tout court est une éducation pour le dominer.
Subjuguer.
C'est tout. C'est pas fait pour le libérer. Pourquoi? Parce que dans des sociétés où il y a la dictature politique.
Le libérer de quoi? Il faut le
libérer de toute forme de domination. Il faut qu'il soit libre. Et pour qu'il soit libre, il faut pas qu'il soit frappé. Le prophète n'a jamais frappé. Ben pourquoi? On frappe pas un homme libre. On frappe des animaux. Même les animaux, le prophète dit, faut pas frapper. Très bien. Alors, mais nous, on n'élève pas nos enfants, on les dresse. Ou c'est un élevage.
Oui, c'est un élevage.
C'est un premier point. Et c'est un élevage spirituel et politique. Parce que dès lors que le dominant veut dominer, il faut qu'il arrive à convaincre les dominés que c'est bien. Donc, il va transformer l'éducation en conséquence. Et il faut qu'il mette les militaires et l'argent en conséquence aussi. Donc, c'est coup de fouet et contrôle policier. Dans nos pays musulmans, c'est exactement ça. La police te matraque et l'imam te matraque aussi. Et puis, toi, tu vas faire la même chose à tes enfants et à ta femme. Et ça, c'est ce que nous avons jusqu'à présent ici. C'est un premier point. Donc, il faut libérer l'éducation et donner une éducation qui donne les capacités d'être autonome, contributeur, libre et sans crainte. Deuxièmement, il faut les moyens économiques. Comment nous donner les voies, l'éducation, l'audace de créer économiquement, de contribuer, de pas mendier. Moi, je rêve d'une communauté musulmane aujourd'hui qui n'a plus besoin de demander le RSA. Limite, c'est nous qui donnons. Mais quelqu'un qui toujours reçoit est toujours insulté. Donc ça, c'est les deux conditions civilisationnelles premières.
Et comment on change ça? Comment on change ça?
On met en place des institutions.
Sortir de.
On éduque là-dedans.
Ok.
Pardon.
Merci beaucoup.
Sur le pouvoir économique, je parlais.
Oui. Comment sortir de ce conditionnement? Mais vraiment, c'est ça la question. Et j'entends. Oui, matériellement parlant, il faut des institutions où les institutions vont aider, réformer l'institution de l'éducation. Absolument, c'est un besoin. Donner accès. À partir de Dieu. Mais donner pouvoir. Finalement, je reviens au mot-clé. Il faut donner pouvoir. Ah, il faut arrêter d'écraser les gens. Il faut leur donner pouvoir. Voilà, empowerment. Il faut donner pouvoir aux gens. Dieu, lui-même, il donne pouvoir à l'être humain. On n'est pas, même cette question de maître. Moi, je n'aime pas appeler Dieu maître dans ce sens-là. Rabb, c'est pas le maître et je suis son esclave, l'abd. Abd, je suis l'élève et lui, le maître, ok, le maître enseigneur, il est en train de me donner le pouvoir de la lumière, il est en train de me donner le pouvoir de ilm. Allama Adam al-asma'a kullaha. Il enseigne à Adam toutes les sciences, toutes les choses, etc. Donc nous, comme Dieu.
Pour quelle finalité, finalement, ce pouvoir? Ce pouvoir, pour quelle finalité?
Pour ce pouvoir, pour libérer l'être humain des dominations afin qu'il puisse, afin que son potentiel intérieur, la graine que Dieu a plantée en lui, puisse être révélée. Sinon, elle va être étouffée. Maintenant, comment, la question, on est d'accord, il faut donner le pouvoir à l'être humain. Dieu donne le pouvoir à l'être humain, ça c'est un pouvoir. La révélation, c'est un pouvoir. C'est un potentiel qui a été caché dans le cœur de Mohammed, qui a été révélé au grand jour. Mais c'est un potentiel qui est dans l'être humain. Le Coran, pour moi, c'est un texte de pouvoir, c'est pas un texte de contrôle et de domination. C'est pas pour que Dieu domine les êtres humains, etc. La charia, c'est un pouvoir, normalement. C'est une voie de libération, c'est une voie de pouvoir pour donner le pouvoir à l'être humain.
Qui mène vers le chemin de la source.
Qui mène vers le chemin de la source. Maintenant, nous, on doit faire exactement comme Dieu. Si je me trouve dans une position d'enseignant, par exemple, spirituel, est-ce que je vais asservir mes mourides et mes disciples et mettre l'emphase sur la structure disciplinaire plus qu'autre chose? Je deviens l'idole de mes disciples ou bien je rentre dans une dynamique plutôt de donner pouvoir, donner lumière, donner pouvoir, donner les moyens à cet élève-là afin qu'il puisse un jour devenir mieux que moi. Si je suis un papa, Est-ce que je vais dominer mes enfants ou je vais donner pouvoir à mes enfants? Si je suis un époux.
Mais en même temps, il y a besoin d'une autorité.
Oui, oui,
parce
je
que,
viens.
On parle d'une crise de l'autorité, d'une disparition de l'autorité en Europe notamment.
Oui. Mais qui a dit que l'autorité veut dire domination?
Non, mais l'autorité, le mot en latin, il est intéressant parce qu'il signifie ce qui fait croître, ce qui fait grandir. Voilà. Mais ça signifie.
Rab, c'est ça. Ça, c'est Rab.
Très bien.
C'est la définition littérale de Rab.
Mais très bien. Mais ça signifie qu'il n'y a pas d'égalité entre le maître, l'enseignant, je parle. Oui. Et oui, l'élève, c'est-à-dire qu'à un moment donné, non, ça veut dire que l'élève doit être à l'écoute du maître pour recevoir ce savoir, ce qui ne signifie pas qu'il ne questionne pas, parce qu'il y a toujours un temps d'échange après le cours, mais l'élève ne doit pas interrompre en permanence le maître, comme s'il y avait une équivalence.
Bien sûr,
ça c'est
une discipline,
ça c'est la fin
de
l'autorité.
Ça c'est l'art de recevoir, l'autorité c'est un art. Ce n'est pas une dominance. On n'exerce pas l'autorité pour écraser une personne et la subjuguer. Dieu, subhanahu wa ta'ala, celui qui est en autorité, il ne nous écrase pas. Il me laisse faire des erreurs, il me laisse tomber, il me laisse faire ceci. Moi, je le vois en souriant et voilà, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et vous voyez, l'autorité veut pas dire domination, veut pas dire qahar, veut pas dire écraser quelqu'un. Même qahar, ça veut pas dire écraser quelqu'un. Ceci dit, on parle maintenant de vous m'avez posé l'idée de lieutenant. Qu'est-ce que cela veut dire être lieutenant? Et dans le Coran, un exemple concret. Être lieutenant, c'est Abdullah. C'est être Abdullah, qui veut pas dire être l'esclave d'Allah, qui veut dire être le projet d'Allah. Voilà l'identité à laquelle nous avons besoin de revenir. Je veux revenir à ce point, pourquoi? Parce que je ne veux pas conditionner le salut de l'être humain et la solution, je ne veux pas conditionner notre émancipation aujourd'hui de cette oppression qui est là et de cette dépression qui est là. Je ne veux pas la conditionner à l'économie, ni à l'industrie, au succès économique, ni industriel, ni politique.
Moyens.
C'est des moyens, mais je ne veux pas la conditionner à ça. Qu'est-ce que cela veut dire?
Mais sans ça, on n'y arrive pas non plus.
Si, je vous dis.
Ah, bah, je vous écoute.
C'est ça. Parce que si je vois comment le prophète, il a fait, et les prophètes, alayhim salatu wassalam, kulluhum, ils ont fait, est-ce qu'ils ont dit, posons-nous, Bilal, posons-nous Ammar, posons-nous Yasser. Restez tranquille maintenant. La priorité maintenant, c'est qu'on re-obtienne notre souveraineté politique et notre puissance économique. Ils ont été libérés. Bilal était libre.
Ouais.
Libre. Ouais. Était l'homme de Abdul Ahad. Wow. C'est pas Abdullah. Abdul Ahad, c'est le nom suprême de la liberté. C'était Abdul Ahad, Abdul Samad. Il était vraiment libre dans le summum de la liberté humaine à laquelle on aspire aujourd'hui, alors qu'il était toujours esclave. Avant que même Abu Bakr al-Siddiq ne puisse avoir accès à cette intelligence spirituelle pour aller penser « Ah oui, je peux acheter mon confrère pour le libérer le lendemain. » Bilal était déjà libre. Il était déjà libre. Pourquoi? Parce que le prophète lui a donné le pouvoir. Il lui a donné un pouvoir à la source. Il lui a donné un pouvoir inconditionnel. Un pouvoir que la pauvreté ne peut pas réduire, que l'esclavage ne peut pas enlever, que la prison ne peut pas mettre dans une cage. Ce pouvoir-là, il faut qu'on le donne à nos enfants aujourd'hui. Il faut qu'on se le réclame.
On le donne aussi par... En fait, il faut qu'il y ait une réflexion sur l'éducation.
Oui.
Spirituelle et l'éducation tout court. Premier point. Et penser des institutions et une manière d'éduquer qui soit mieux adaptée à la réalité de l'être humain dont parlait notre cher frère, premièrement. Deuxièmement, il s'agit aussi de penser les conditions sociales et économiques de cette liberté. Les deux vont ensemble et ne sont pas contradictoires. Troisièmement, comment penser les modalités de contribution? Comment être contributeur? Parce que quand on donne, on reçoit.
Oui.
Et on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. Oui. Sur le champ intellectuel, quelles sont les institutions de diffusion du savoir que nous mettons en place? Et enfin, quelles sont les institutions d'empowerment économique et politique? Ces quatre conditions l'éducation et sa pédagogie, l'autonomie financière, la contribution symbolique et la contribution économique sont les quatre conditions pour faire de nous des êtres humains capables et non coupables.
Moi, je dirais, ce ne sont pas des conditions essentielles, mais ce sont les moyens. Si on veut travailler. Moi, je ne conditionne pas le résultat à ça. C'est ça le petit bémol ici. Oui, si vous voulez travailler le champ, c'est comme ça qu'il faut travailler parce que c'est comme ça que le prophète a fait. Ces quatre-là, si on suit la sunna du prophète à Médine, mais c'était exactement qu'est-ce que vous avez dit. Ces quatre-là. Ces quatre piliers-là. Si on veut na'mour al-ard, si on veut travailler et faire notre devoir
pour Dieu. Piliers,
pour Dieu, oui.
Parler de quatre piliers,
oui.
Parler de quel pilier?
Les piliers qu'il vient de citer. Pour l'éducation, l'économie, etc.
D'accord.
Pour na'mour al-ard, pour faire l'istikhlaf al-ard, pour bien jouer notre rôle de khalifa, et bien jouer, être en harmonie avec la volonté de Dieu, wasta'amara konfiha, absolument, on suit le modèle prophétique, et c'est ça le modèle prophétique. Ceci dit, si on veut faire notre devoir, et être témoin de la grâce de Dieu, et nous permettre de voir un miracle qui sort de nos mains, d'entre nos doigts. Il n'y a pas que le prophète dans l'eau a jailli d'entre ses doigts. Même nous, comme êtres humains, on peut voir le miracle de Dieu jaillir à travers notre travail à nous. Oui, absolument. Travaille et tu vas trouver le résultat que c'est Dieu lui-même, il va travailler à travers toi. Hein? Saint François d'Assise, il a paraphrasé Abul Hassan Chadouli et c'est la prière universelle. Dieu fait de moi un instrument de toi, de ta paix. Voilà. Lorsqu'on fait notre devoir, ceci dit, moi je ne vois pas ça les priorités. Et ça devient, si vous voulez.
Quelles sont les priorités?
Les priorités, c'est une révolution spirituelle. Je reviens à la case, ou à qu'est-ce que j'ai mentionné au début. Nous avons besoin de quelques personnes intelligentes, bien réalisées.
Donc vous voulez dire des modèles?
Oui.
Des gens qui inspirent un exemple.
Itrati Ahl Bayt. Nous avons besoin, selon ma compréhension et selon mon expérience, nous avons, pour avoir accès, vraiment un vrai accès à ce texte-là, j'ai besoin de l'aql, mais ce aql-là, c'est pas le aql figé, le aql de Descartes.
L'intelligence, l'intellect.
Non, j'ai besoin de cette intelligence, mais oui, intelligence holistique, émotionnelle, rationnelle, spirituelle. Cette intelligence-là, je ne peux... Selon mon expérience et ma compréhension, j'ai besoin d'un modèle.
Est-ce qu'ils existent aujourd'hui?
Aussi, il faut les chercher. Il faut les chercher et il faut leur donner aussi, et il faut les libérer aussi. Et je dis, ce modèle aujourd'hui, il est à reconstruire, barakallahu fikum. Merci pour cette question. Parce que on peut être tenté par, il faut chercher ce modèle et aller les suivre. Non, ces modèles ont besoin de leurs élèves.
Parce
aujourd'hui.
Ils viennent de nous.
Oui, absolument. Ils sont en nous, le potentiel. Mais les personnes, il faut trouver des personnes intelligentes et qui ont une tarbia, mais il faut travailler avec eux à un niveau horizontal pour reformer parce que la crise, elle a atteint tout, même l'éducation spirituelle aujourd'hui. L'éducation spirituelle aujourd'hui, dans sa forme, moi, j'ai rencontré des êtres libres emprisonnés dans des institutions d'esclavage, non seulement pour réduire leurs élèves à des esclaves, mais même eux, ils deviennent des esclaves de ces institutions-là. Alors que lui, j'ai vécu avec lui, je connais cette personne-là. C'est un être libre, au-delà de cette institution-là.
Comment vous comprenez cette contradiction?
Parce que
il peut être libre alors qu'il est enfermé dans son
institution
et qu'il réduit des gens, qu'il enferme des
individus. C'est l'institution qui les réduit, c'est ça.
Donc il n'est pas vraiment libre.
C'est pour ça qu'il faut aider ces bons modèles-là. D'ailleurs, même le prophète...
Moi, je suis pour le fait de les abandonner.
Non.
Donc créer une nouvelle génération.
Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment? Comme ça?
Non!
On devient des khawarij, comme
non,
ça.
Non, pas des khawarij.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les khawarij? Ils ont refuté Ali, le modèle, pour lui en dit, ce texte-là nous suffit. Non, moi je...
Non, les khawarij n'ont pas, c'est pas ça qu'ils disaient. Pour moi, les khawarij n'ont pas lu le Coran.
Bon, c'est pas le sujet, mais...
Mais oui.
Mais pour revenir, moi je pense qu'il y a des terres fertiles.
Oui.
Et c'est pas un hasard si le prophète, alayhi salatu wassalam, est sorti d'une communauté qui connaissait pas la religion. Heureusement qu'il les a pas, il a pas sorti chez les chrétiens et les juifs. Il aurait fatigué avant qu'il puisse sortir. Il y a des terres fertiles aujourd'hui. Moi, je pense que
Les plus difficilement
guidables, entre guillemets, ce sont ceux qui pensent qu'ils sont guidés. Et c'est souvent les lettrés, malheureusement. Ceux qui font partie de l'oligarchie savante et l'oligarchie économique. La jeunesse aujourd'hui est un terreau fertile qui a besoin d'être arrosé par une, un discours, par un exemple fait d'humilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas de la domination. En fait, ne dominez pas. Et on a besoin effectivement de cela. Et faire de cette jeunesse-là les futurs leaders. Ça, ça doit être notre rôle en tant que, entre guillemets, personnes qui sommes à peu près dans la quarantaine. Quel type d'éducation donnons-nous de Dieu ? Et moi, j'ai une question à poser à Cheikh et je m'arrête ici. Est-ce que l'éducation spirituelle, alliée à l'éducation, on va dire, telle qu'on a pour apprendre à lire et à écrire, est-elle donnable aujourd'hui à l'aune de l'enseignement soufi ou de l'enseignement religieux que nous avons?
Je vous demande d'être vraiment très court là-dessus parce qu'on a vraiment dépassé le temps autorisé pour cette émission.
Pour être simple, je dis non. La structure actuelle, l'institution actuelle et tous les exemples que j'ai pu visiter. Et j'ai voyagé beaucoup dans le monde soufi à la recherche de ce modèle parce que, et sans désespérer, non, je vous dis que le soufisme d'aujourd'hui, l'institution de l'éducation spirituelle aujourd'hui, non, je ne peux pas lui confier tel quel.
Nos enfants.
Absolument. Et le projet est mes élèves. Je ne peux pas, si quelqu'un me dit, on m'envoie toujours des projets, on a vu chez tel hôtel à côté de vous, voilà, je réponds à vos questions. À côté de vous, dans une vidéo, est-ce que je peux lui faire une bay'a? Je garde le silence, mais là, je vous dis, non, s'il vous plaît, faites pas de bay'a à aucun cheikh. Parce que...
L'allégeance.
Parce que cette allégeance-là, parce que ce cheikh-là, il a besoin de vous. Et là, comment reconstruire? Même un nabi, illa wa lahu bitanatan. Bitanatun ta'amuruhu bil khayr wa tu'aynuhu alayh, ou bitanatun ta'amuruhu bil su'i wa tu'aynuhu alayh. Selon l'enseignement du prophète lui-même. Si le prophète, il a dit, même le prophète, dans son rôle d'enseignant, il peut avoir deux cercles d'élèves. Un cercle qui lui donne pouvoir. Qui le pousse vers le bien. Et qui l'encourage à faire le bien. Et qui le développe. Qui participe à son développement spirituel et lui aussi en tant que... dans son rôle de maître spirituel et d'éducateur spirituel. Parce qu'un bon élève fait un bon maître, fait un bon enseignant. Un mauvais élève, si moi, par exemple, je suis charismatique comme vous ou quelque chose comme ça, et je parle vraiment tellement bien, et je risque de réduire mes élèves en spectateurs, en fans, prisonnier de mon idole. Hey, donne-lui un coup. Hey, on a pu voir ça dans les commentaires de plusieurs personnes. Moi, j'en ai vu durant 20 ans. Mais non. Et ça, c'est un cercle qui ya'muruhu bil su'i wa yu'inu 'alayh. Donc, si le prophète il a besoin de ça, que dire l'éducateur spirituel? Moi, je pense qu'on doit reviser ça. D'ailleurs, j'ai publié quelque chose il y a quelques jours en anglais. Nous vivons une époque où l'éducateur spirituel et la personne et l'élève spirituel, c'est la personne qui est en quête de développement spirituel, doit venir maintenant et travailler ensemble pour recréer un milieu organique, fertile, basé sur une relation sacrée qui s'appelle l'amitié en Dieu.
Et ce sera le mot de la fin, l'amitié cette fois-ci, le Dieu. Dernier mot de la fin. Merci beaucoup Hamdi Ben Aïssa. Je rappelle que vous êtes enseignant, fondateur de l'Institut Hamim et du mouvement Floraison. Vous êtes l'auteur d'un livre à paraître intitulé L'agir spirituel. Merci beaucoup Ousmane Timera de votre présence et de votre participation dans ce débat. Donc vous êtes aussi l'auteur d'un livre, enfin du premier tome d'un ouvrage qui s'appelle Lire le Coran. Vous êtes conférencier et vous préparez un doctorat en philosophie sur la notion de volonté chez Al-Razali. Merci monsieur pour cette contribution sur un sujet qui a été loin d'être épuisé. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir prochainement.
Merci à vous. Vraiment, je tiens à dire merci à vous pour cet espace et merci pour cette rencontre.
Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt sur Mizen TV.